Bonjour, bon vendredi 20 octobre 2017, belle journée ensoleillée. C'est Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Les Voies de service quotidien. Bonjour Mathieu.
Bon matin.
Êtes-vous venu en scooter ce matin?
Oui.
Oui, hein, parce que ben c'est frais quand même, ouais. Mais ça se fait bien.
J'ai le dos. Donc, j'ai
oui,
pas,
c'est vrai,
j'ai
vous avez fait partie du Cirque du Soleil, vous, dans une ancienne vie.
Mais oui, non, tout à fait, je roule. Je roulerai jusqu'à ce que ben, ça soit interdit,
ah,
le
oui?
15 décembre.
Ah, c'est le 15 décembre?
Oui, c'est la saison.
La même date qui pour les pneus d'hiver.
Voilà. 15 décembre ou 15 mars.
Mm-hmm. Mais s'il y a une tempête le 1er décembre, c'est sûr
ben,
que
non,
c'est vous allez rester
Et
chez
s'il
vous.
S'il n'y a pas de neige en janvier, j'ai pas le droit non plus.
Ouais. Vous ne resterez pas chez vous, mais votre scooter va rester chez vous.
Je vais marcher à côté.
Vous ne viendrez pas de dos comme ce matin.
Non.
Alors, on vous écoute.
Oui, vous savez à quel point des fois, il n'y a pas de journée internationale. Aujourd'hui, mm-hmm. J'ai le contraire, en fait. J'en ai beaucoup.
À l'appel.
Et voilà.
Comme
nous
les feuilles.
nous sommes la journée mondiale de l'ostéoporose, la journée internationale des cuisiniers, la journée internationale pour la résolution de conflits, la journée internationale du squash, la journée internationale du contrôleur aérien, créée par la Fédération internationale des associations de contrôleurs aériens.
Ouh.
Et pour célébrer, et c'est aussi la journée mondiale de la statistique. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas vrai.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. En 1671, les hommes célibataires de la Nouvelle-France reçoivent l'ordre de marier de jeunes filles arrivées de France sous peine de perdre leurs droits de chasse et autres privilèges.
Les filles du roi?
Exact. En 1818, par un accord entre Washington et Londres, la frontière entre le Canada et les États-Unis dans l'Ouest est fixée au 49e parallèle. En 1855, la capitale canadienne quitte Québec pour se rendre à Toronto, étrangement. En 1884, le quotidien La Presse, fondé par William Edmund Blumhardt, publie son premier numéro. Nous avons en 1887 l'ouverture à Québec de la première conférence interprovinciale. En 1914, une bombe fait 2 morts sur la rue Frontenac à Montréal. En 1945, l'Égypte, l'Irak, la Syrie et le Liban préviennent les États-Unis que la création d'un État juif conduira à la guerre. En 1961, le maire Jean Drapeau annonce que Montréal construira son métro. Il sera inauguré en octobre 1966. L'Opéra de Sydney ouvre en 1973. 1987, la Caisse de dépôt de placement et placement du Québec perd près de 800 millions de dollars à la suite de l'effondrement la veille des marchés boursiers. En 1968, c'est au tour du hockeyeur Jean Béliveau de marquer son 500e but. On se souvient que c'était en 1957 que Maurice Richard était le premier à scorer, comme dirait mon grand-père. Et en 1996, les derniers des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Bruxelles pour une marche à la mémoire des victimes de la pédophilie et ce qu'on a appelé la marche blanche en Belgique. Et en 2014, Martin Couture-Rouleau est abattu par la police de Saint-Jean-sur-Richelieu après avoir heurté 2 militaires avec son véhicule, tuant ainsi l'adjudant Patrice Vincent. Voilà, je n'ai plus de souffle, mais je vous passe le micro puisque c'est à vous.
Merci Mathieu.
Plaisir.
Sondage Ipsos. La presse, les astres s'alignent pour la CAQ en tête chez les francophones, en avance à Québec et en région. Un chef perçu comme le meilleur premier ministre, la coalition Avenir Québec, s'impose de plus en plus comme l'adversaire le plus probable du Parti libéral. Scandale sexuel, les chroniques d'Yves Boisvert, les événements isolés, entre guillemets. Rima El-Khoury, il faut saluer ce courage. Hugo Dumas, le couvercle sur la marmite. Et la chronique de Marc Cassivi, coup de gueule. Je me sens trahi. Citation de Laurent Paquin. Digital Media Awards, la presse plus remporte un prix prestigieux à New York. La CAQ en bonne position. À un an des élections générales et en dépit de remaniements majeurs du Conseil des ministres, les planètes semblent bien s'aligner pour la coalition Avenir Québec. En tête chez les francophones, le parti de François Legault consolide sa position devant le Parti québécois et devient l'adversaire le plus probable du Parti libéral pour le scrutin d'octobre 2018. C'est ce qui se dégage d'une enquête Ipsos réalisée pour la presse auprès de 1659 répondants. Pour Sébastien Dallaire, vice-président d'Ipsos Affaires publiques, l'enquête réalisée du 14 au 17 octobre allume plusieurs voyants rouges au tableau de bord de Philippe Couillard. Il y a beaucoup d'avertissements pour les libéraux. Plusieurs indicateurs dans ce sondage renforcent l'idée que la CAQ et son chef François Legault se positionnent bien comme l'alternative. Ils ont montré que ce n'était pas une erreur de parcours, résume M. Dallaire. Globalement, pour le sondeur, une élection la semaine dernière aurait donné un gouvernement minoritaire. Libéral ou caquiste, bien difficile de trancher. Course à deux entre libéraux et caquistes aux prochaines élections? Potentiellement, mais il est encore trop tôt pour arriver à cette conclusion, prévient le sondeur. En région, en dehors de Québec et de Montréal, la CAQ est encore en tête avec 32 % devant le PLQ et le PQ au coude à coude avec 27 % chacun. Dans la grande région de Montréal, qui inclut l'île et la Couronne, les libéraux dominent avec 36 % contre 23 % pour le PQ, suivi de près par la CAQ. Québec solidaire ferme la marche dans la région métropolitaine avec 13 % des intentions de vote. Le PLQ est le plus populaire chez les jeunes, récoltant le tiers des intentions de vote chez les 18-34 ans, soit deux fois plus que la CAQ. Mais le parti de Legault est désormais plus populaire chez les aînés, 36 % des intentions de vote contre 28 % pour les libéraux. Au sein de leur propre parti, François Legault et les leaders de Québec solidaire Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois font le plein d'appui. 78 % des caquistes veulent avoir François Legault à leur tête aux prochaines élections et 70 % des solidaires veulent aussi aller au combat avec leurs généraux actuels. La photo est moins nette pour les autres partis. Jean-François Lisée, qui vient de récolter un appui quasi unanime de son congrès, est appuyé par 64 % des électeurs péquistes. Pour Philippe Couillard, le tableau est plus mitigé encore. Seulement 57 % des électeurs libéraux préfèrent qu'il reste à la barre pour les prochaines élections. Éditorial, harcèlement sexuel au travail, mot-clic eux aussi, c'est un texte d'Ariane Kroll. La carrière d'Éric Salvaille est au tapis, celle de Gilbert Rozon est KO et celle d'Harvey Weinstein ne s'en remettra vraisemblablement jamais. Pour ces hommes d'affaires et leurs entreprises, il y aura un avant et un après les dénonciations. Mais ailleurs, dans toutes les autres organisations où un climat de travail toxique subsiste encore, sommes-nous vraiment en train d'assister à un changement de culture, comme on se plaît à le dire ces jours-ci? Attention, c'est loin d'être acquis. Que ce soit devant les collègues ou derrière une porte fermée, nul ne devrait avoir à subir un geste, ni même une allusion à caractère sexuel dans un contexte de travail. Ce n'est pas écrit tel quel dans une loi, mais on souhaite bonne chance à quiconque essaiera de plaider son droit d'infliger à son personnel ou à ses collègues ses commentaires déplacés, ses mains baladeuses ou toute autre partie de son anatomie. C'est inacceptable pour la plupart des Québécois, c'est depuis longtemps l'évidence. Cependant, comme certains individus retardent de quelques décennies, il existe aussi des lois pour remettre les pendules à l'heure. La section de la loi sur les normes du travail sur le harcèlement psychologique, qui inclut le harcèlement sexuel, parle de conduite vexatoire qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Le Code civil indique aussi que l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. La définition du salarié est large, incluant une personne qui remplit un contrat d'une journée. La portée du milieu protégé aussi. Les abus de supérieurs ou de collègues ne doivent pas être tolérés, mais ceux des clients, des usagers, des visiteurs ou des fournisseurs non plus. Et en l'absence de lien d'emploi, dans le cadre d'une entrevue d'embauche, par exemple, il y a la Charte québécoise des droits et libertés qui garantit à toute personne qui travaille des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Oui, plusieurs des allégations des derniers jours dépassent le harcèlement et évoquent carrément des agressions. Mais ce n'est pas minimiser les faits que de rappeler qu'ils se sont produits dans un contexte de travail. Au contraire, c'est précisément ce qui rend de telles horreurs possibles. Si les comportements dénoncés ces temps-ci avaient ciblé des personnes croisées au hasard dans la rue, croyez-vous que leurs auteurs auraient pu continuer durant des décennies? Le contexte du travail, en plus de susciter une proximité dont abusent les malotrus, crée une vulnérabilité qui incite victimes et témoins à encaisser, sans rien dire, même des années après les faits. La proximité est inévitable. C'est à la vulnérabilité qu'il faut remédier. Pour cela, il faut voir au-delà des individus et se rendre compte que ce sont les situations et les comportements dénoncés qui sont inacceptables. Et il faudra continuer à s'y intéresser, même quand il n'y aura plus de vedettes pour faire les manchettes. Ce ne sont pas les milieux précaires et les travailleurs vulnérables qui manquent. Eux aussi ont besoin que ça change. Or, les tribunaux, on l'a vu, ne peuvent pas faire tout le boulot. Il faut que le message se passe et que les attitudes évoluent, quel que soit le milieu. C'est donc dans la section éditoriale, débat, mot-clic, eux aussi, Ariane Kroll. Duel Coderre-Plante, les scandales sexuels s'invitent au débat. L'ombre du scandale sur les inconduites sexuelles a plané sur le débat à la mairie de Montréal, suscitant un malaise quand Denis Coderre a accusé Valérie Plante de politiser le congédiement pour harcèlement de M. Fluidité, Pierre Lacasse. Les deux candidats ont aussi été à couteau tirés sur le financement public d'un nouveau stade de baseball et la centralisation des services à la ville de Montréal. Valérie Plante a entamé ce débat organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en se disant troublée par la récente vague d'allégations qui secoue Montréal, faisant référence aux affaires Roson et Salvaille. Ça suffit. À vous qui êtes des leaders, mon message, vous devez prendre votre leadership et rendre les milieux de vie et de travail sécuritaires pour toutes et tous, a-t-elle ajouté, Denis Coderre appuyant ses propos. Mais la question des inconduites sexuelles en milieu de travail a ressurgi de manière étonnante plus tard dans un volet du débat consacré à la circulation. Quand Valérie Plante a estimé que l'embauche du chroniqueur à la circulation Pierre Lacasse n'avait pas porté ses fruits, le maire s'est indigné en répondant que son congédiement était lié non pas à son rendement, mais à une question de harcèlement. On voulait protéger des employées féminines. Après le débat, le maire a justifié sa sortie. Je trouvais qu'on faisait de la politique pas mal. On ne peut pas d'un côté dire c'est tolérance zéro et essayer de marquer des points avec cela. C'était un cas de harcèlement et pour moi, c'est tolérance zéro. Circulation, les automobilistes devront éviter trois secteurs de Montréal en fin de semaine. L'autoroute 20 sera complètement fermée en direction ouest durant toute la fin de semaine de l'échangeur Turcot jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre. Les automobilistes en provenance du centre-ville de Montréal ne pourront donc pas utiliser des voies rapides en direction des ponts Champlain ou Mercier ou pour se rendre vers l'aéroport Trudeau à Dorval. Les bretelles d'accès à l'autoroute 20 ouest à partir des boulevards Monk et Angrignon seront aussi fermées. Ces entraves seront en vigueur à compter de 23 heures ce soir jusqu'à 5 heures lundi matin. En direction est, la route 136, autoroute Ville-Marie, sera interdite à la circulation entre l'échangeur Turcot et le centre-ville de Montréal. Par conséquent, la bretelle qui mène de l'autoroute Descaries, l'autoroute 15 sud, à la route 136 sera aussi fermée à partir de minuit ce soir jusqu'à 5 heures lundi matin. Enfin, au pont Mercier, la circulation sera réduite à une seule voie par direction pour tout le week-end, à compter de 23 heures ce soir. La circulation s'effectuera à contresens sur la structure en direction de Montréal.
Bumper, Martin Léon, c'est tout.
En une du Devoir, en ce vendredi 20 octobre, devant la vague d'allégations d'agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, le bâtonnier du Québec plaide pour des changements de fond au système de justice pour mieux aider les victimes. Allégations de nature sexuelle, l'onde de choc ébranle le Québec. La vague de dénonciation entraîne la chute de Gilbert Rozon, d'Éric Salvaille et de Gilles Parent. Trump est une alarme, un avertissement. Pour l'essayiste Naomi Klein, l'accession du milliardaire américain à la Maison-Blanche témoigne d'un système voué à la déconstruction de l'État-providence. Naomi Klein, on l'aperçoit, s'est dite stimulée par la volonté de produire une analyse qui pourra aider les mouvements en gestation à mieux affronter Trump et ses semblables. Culture, l'album Astérix et la Transitalique fait-il partie des bons Astérix? La critique de Fabien Deglise, et je vous le dis tout de suite, elle est assez positive. Week-end, la frousse de minuit, le cinéma du parc met l'horreur à l'honneur de sa programmation nocturne. Loi 62, pas de sanctions pour les réfractaires. Vers un choc frontal entre Madrid et Barcelone. Zeitgeist, la chronique de José Blanchette, petit manuel de drague moderne. La conséquence d'une justice trop rigide. Les dénonciations publiques illustrent les limites du système, déplore le bâtonnier du Québec. Loin de condamner la vague d'allégations d'agressions sexuelles qui se multiplient sur les réseaux sociaux, le bâtonnier du Québec, maître Paul-Mathieu Grondin, estime que le phénomène traduit le manque de souplesse du système de justice et illustre l'urgence de procéder à des changements de fond pour mieux aider les victimes. Alors que le Québec tout entier est encore ébranlé par l'ampleur de la réaction sur les réseaux sociaux, enclenchée par le mouvement mot-clic MeToo, notamment par les révélations accablantes visant les personnalités publiques Gilbert Rozon et Éric Salvaille, le bâtonnier du Québec s'est dit jeudi bouleversé par ces événements. Interrogé pour savoir si ces condamnations publiques ne constituaient pas, selon lui, une forme de tribunal populaire parallèle au système de justice, susceptible de mener à des dénis de justice, Maître Grondin a dit éprouver une très grande compassion en l'endroit des victimes. Personne ne trouve la situation idéale. C'est une question complexe, mais on ne peut condamner la façon de faire des victimes d'agression, car il y a en ce moment des processus qui sont tout à fait insatisfaisants, a-t-il tranché. Devant cette forme de justice citoyenne qui remet plus que jamais en question l'efficacité du système judiciaire, le bâtonnier va plus loin et affirme que le système de justice est devenu trop rigide et visiblement incapable de répondre aux besoins des nombreuses victimes d'agressions sexuelles. Même si ces dénonciations publiques pourraient mener à des dérapages, Maître Grondin estime que les révélations qui se multiplient sur les réseaux sociaux ne sont pas pires que celles faites dans des lettres ouvertes ou sur les ondes des médias. Il y a toute une réflexion à faire par l'ensemble des intervenants. Je n'ai pas de solution miracle à proposer aujourd'hui, mais on a mis cette discussion à l'intérieur de nos priorités. Tous les intervenants sont au courant de cette urgence, dit le bâtonnier du Québec. Pour la sociologue de l'Université d'Ottawa, Diane Pacom, cette libération de la parole sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les agressions sexuelles fait plus qu'illustrer les manquements du système de justice. Elle est le symptôme d'un phénomène beaucoup plus large qui souffle sur l'époque et la société. De l'avis de la sociologue, ce mouvement social est le résultat de la convergence de trois phénomènes. La montée de cette nouvelle citoyenneté numérique, le pouvoir grandissant des femmes dans la société nord-américaine et l'érosion croissante de la confiance des citoyens dans les institutions traditionnelles, notamment le système de justice, le système policier, le pouvoir politique et les médias. Le ministre des Finances, Bill Morneau, abdique devant la critique. Afin de reprendre le contrôle de son message politique, il se rend aux arguments de l'opposition et placera tous ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard. Il se départira même de toutes les actions que lui, son épouse et leurs enfants détiennent dans l'entreprise familiale Morneau-Chappelle. Ses détracteurs ne sont pas pour autant satisfaits. « Je n'ai eu aucun conflit d'intérêts pendant les deux dernières années, mais je sais aussi qu'il y a une distraction en ce moment », a concédé M. Morneau en conférence de presse. M. Morneau est sur la sellette depuis lundi quand le Globe and Mail a révélé que les avoirs du ministre des Finances n'étaient pas placés dans une fiducie sans droit de regard comme plusieurs le croyaient. M. Morneau placera tous ses avoirs, notamment 6 entreprises à numéros, dans une fiducie sans droit de regard. Il donnera aussi la consigne que soit vendu le million d'actions qu'il détient dans l'entreprise familiale Morneau-Chappelle et dont la valeur boursière pourrait atteindre 21 millions de dollars. Comment se sent-il d'avoir à rompre les liens avec l'entreprise familiale? J'ai passé 25 ans de ma vie à construire cette entreprise avec ma famille. J'ai travaillé avec mon père qui était de l'autre côté du corridor. On traversait ce corridor 50 fois par jour, a relaté M. Morneau, mais il assure assumer son saut en politique. À la Chambre des communes, pour la 4e journée cette semaine, la quasi-totalité des questions ont visé M. Morneau. Autant les conservateurs que les néo-démocrates lui demandent de s'excuser. L'agression présumée d'une cliente d'Uber par un conducteur dont l'identité est protégée par le service de transport donne des munitions à l'industrie du taxi. Elle a dénoncé jeudi l'abaissement des exigences de sécurité imposées aux chauffeurs québécois de la multinationale. Le Devoir révélait mercredi qu'une Montréalaise a intenté une poursuite civile de 100 000 $ en dommages punitifs moraux et corporels contre Uber. Jessica Sherry Goldberg affirme, photos et vidéos à l'appui, que le conducteur de la voiture dans laquelle elle se trouvait le 7 septembre dernier l'a agressée si sévèrement qu'elle en est tombée inconsciente. Les chauffeurs de taxi traditionnels sont tenus d'afficher leur carte d'identité dans leur voiture. Ce n'est pas le cas des conducteurs d'Uber qui ne révèlent que leur prénom. Chacune de leurs courses est cependant suivie par GPS de manière à assurer une traçabilité électronique de leur véhicule. Mais pour le regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, cela n'assure en rien la sécurité des passagers, puisque les plus récentes exigences du ministère des Transports permettent aux conducteurs actuels d'Uber d'attendre 2 ans avant d'obtenir une vérification d'antécédents judiciaires auprès d'un corps policier. La loi pourra être ignorée par les villes. On parle ici de la loi de la neutralité religieuse. Montréal pourrait ne pas être la seule ville à bouder la nouvelle loi 62 sur la neutralité religieuse. Les villes pourront aisément contourner la législation québécoise, confirme un constitutionnaliste. D'autant plus que les réfractaires ne feront l'objet d'aucune sanction pénale, reconnaît la ministre de la Justice qui ne semble pas particulièrement inquiète d'en voir plusieurs hésiter à appliquer sa loi. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, espère faire parvenir ce printemps aux divers intervenants les lignes directrices qui préciseront les balises d'accommodement à sa loi qui exige l'octroi et la réception de services publics à visage découvert. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. Je vous retrouve après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Soleil. de sang sur la terre vermeille. Les flamants roses s'en vont vers le soleil. Vole avec eux mon enfance en sommeil.
Tiré de son album Paradis City, c'était évidemment Jean Leloup qui nous chantait Les Flamands.
Petit raclement de gorge du vendredi. Inconduite sexuelle d'autres victimes à la radio et dans l'édition, c'est en une du Journal de Montréal. Sept femmes dénoncent l'éditeur Michel Brûlé et Cogeco suspend sa vedette de Québec, l'animateur de radio Gilles Parent. Sept ex-employés se vident le cœur. Ces femmes décrivent un environnement de travail axé sur le sexe où Michel Brûlé avait un égo démesuré et se prenait pour Dieu dans sa maison d'édition à travers divers événements qui se sont déroulés sur une période d'une dizaine d'années. Selon plusieurs témoignages, l'homme à la tête des éditions des Intouchables se vantait auprès de ses employés de ses aventures sexuelles avec des prostituées et s'amusait régulièrement à montrer des photos de son pénis. Il n'était pas rare non plus qu'il leur demande de se présenter chez lui pour le travail et de les accueillir complètement nus. Sept ex-employés et trois témoins racontent que les baisers forcés et les commentaires déplacés survenaient même au public, en public, dis-je bien, au lancement de livres ou au bureau devant des auteurs au beau milieu de la journée. Tous ont requis l'anonymat, sauf une, Sarah-Emmanuelle Duchesne, avait 27 ans. Lorsqu'elle a obtenu un contrat de révision à la pige pour Michel Brûlé, il y a une dizaine d'années. Les bureaux étaient dans un local vitré sur Saint-Denis à Montréal. Tout le monde pouvait voir à l'intérieur. Un jour, j'avais dû m'y rendre pour discuter d'un projet. Au moment de quitter les lieux, il m'a coincé sur le mur en angle avec la porte. Il a essayé de m'embrasser, soutient-elle. À un moment, Mme Duchesne dit avoir poussé très fort M. Brûlé pour se défaire de son emprise. Je lui ai crié « Qu'est-ce que tu as fait, là? » « Qu'est-ce que tu as essayé de faire? » Et lui, il continuait de rire. Les employés riaient aussi. C'était comme si c'était une journée normale, au bureau. Moi, j'avais le cœur qui battait la chamade. Une autre ex-employée qui a travaillé pour lui entre 2005 et 2007 avance que dans les parties, il y avait toujours une séance de frenchage de force. Michel Brûlé juge n'avoir rien fait d'inapproprié en embrassant et massant plusieurs de ses employés sur leur lieu de travail et parle de blagues et d'une équipe de gens ouverts d'esprit. L'éditeur a confirmé hier la véracité d'une partie des témoignages recueillis par le Journal de Montréal tout en niant certaines des allégations portées contre lui. Il avoue avoir embrassé à plusieurs reprises l'une de ses employées sur la bouche dans les bureaux d'une de ses maisons d'édition, mais indique qu'il s'agissait dans son esprit d'une plaisanterie innocente. Gilles Parent, chassé des ondes, le journal a révélé sur le web hier midi que plusieurs femmes affirmaient avoir été la cible des agissements déplacés de l'animateur vedette et producteur Gilles Parent. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans le milieu médiatique, amenant son employeur Cogeco à retirer l'animateur des ondes dans les minutes qui ont suivi. La foulée de dénonciations dans le sillon des allégations concernant Harvey Weinstein, Éric Salvaille et Gilbert Rozon a amené Catherine Desbiens, une employée qui a œuvré avec Gilles Parent, à briser la glace la première hier. Elle a levé le voile sur les quelques 3 années où elle affirme avoir été la cible de harcèlement et de gestes sexuels déplacés de la part de l'animateur. Gilles Parent a admis des gestes déplacés, mais compte toutefois se défendre. « C'est sûr que des propos déplacés, j'en ai déjà dit. Je ne peux pas dire que ce n'est jamais arrivé. Je ne me suis jamais servi de mon pouvoir ou de ma personnalité pour avoir des faveurs sexuelles », a-t-il affirmé d'une voix tremblotante au Journal de Montréal. Les policiers et constables spéciaux ne pourront plus arborer des pantalons de clown, le projet de loi les obligeant à porter leur uniforme ayant été adopté par l'Assemblée nationale hier. Ça va être la fin d'une époque. On fait des changements, a salué le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, qui a déposé en avril dernier la pièce législative visant à combattre ce moyen de pression utilisé par plusieurs corps policiers lors de conflits de travail. Le projet de loi 133 a été adopté, tous les partis se positionnant en faveur, à l'exception de Québec solidaire. La pièce législative abolit aussi le double emploi chez les cadres de tous les corps de police, afin de s'assurer qu'ils soient en mesure d'assumer pleinement leurs fonctions. Cette mesure découlait notamment du cafouillage survenu en mars dernier, alors que 300 automobilistes étaient restés coincés sur l'autoroute 13 en pleine tempête de neige. Alors que les conditions météorologiques se détérioraient, le capitaine de la Sûreté du Québec en devoir se trouvait chez le notaire dans le cadre de son autre emploi de gestionnaire immobilier. Cette portion de la législation entrera toutefois en vigueur à la suite d'un décret, a fait savoir le ministre Coiteux. Une opération policière conduit à 130 amendes. Les cyclistes non visibles le soir y ont goûté. Depuis le 11 octobre, des agents du service de police de la Ville de Montréal mènent une opération ciblée contre les adeptes du vélo qui circulent sans être visibles. Bien qu'ils s'exposent à une amende maximale de 48 $, il y a encore plusieurs cyclistes qui ignorent que c'est obligatoire de munir leur vélo de phare et de feu, explique Roxane Rivard, constable au module de la sécurité routière au SPVM. Mercredi soir, 7 policiers ont distribué 25 constats d'infraction en un peu plus d'une heure à l'intersection des rues Rachel et Molson. Depuis le début de l'année, ils en ont distribué 1029 comparativement à 933 pour la même période l'an dernier. L'opération, qui visait également à sensibiliser les piétons à l'importance de bien se faire voir, sans toutefois leur remettre des contraventions, prendra fin vendredi. Plusieurs cyclistes épinglés par le SPVM mercredi soir ont fait part de leur mécontentement. Facebook Canada veut s'assurer de la bonne cyberhygiène des politiciens et des internautes qui utilisent le réseau social en vue des élections fédérales de 2019. L'entreprise compte mettre de l'avant plusieurs initiatives pour soutenir ce qu'elle appelle l'intégrité électorale. Facebook offrira d'abord un programme de formation et un guide de cyberhygiène pour les partis politiques et politiciens qui utilisent le réseau. L'expression fait référence aux bonnes pratiques à adopter afin de garantir sa sécurité sur le Web. Ensuite, le réseau social permettra aux politiciens de signaler par courriel les menaces ou les cyberattaques dont ils sont victimes.
Tu perles sur mon visage. Si je demeure immobile sur ce rivage, les peines en surdose
Plus clair. C'était Félix Diot avec Evelyne Brochu, tirée de son album Politesse, la chanson « Je cours ».
Francis Leclerc, de père en fils et non de père en flic, José Lapointe dans la presse d'aujourd'hui. En adaptant « Pieds nus dans l'aube », roman autobiographique de Félix Leclerc paru en 1947, Francis Leclerc plonge pour la première fois dans l'œuvre de son père. C'est aussi la première fois que le cinéaste de 46 ans en parle ouvertement. « Je l'avais évité depuis 20 ans. Mais m'as-tu vu aller, là? » a lancé le volubile réalisateur lors d'un entretien fleuve la semaine dernière. Quand on lui rappelle qu'il nous avait accordé une entrevue à l'occasion des 10 ans de la mort de Félix, il s'étonne. « J'avais accepté? » Oui, mais en précisant qu'il ne parlerait de son père que pendant 10 minutes. « C'est correct, mais je ne pense pas avoir lu ton texte après, » dit Francis Leclerc, qui avait 16 ans lorsque son père est mort. « Il fallait que je me détache le plus possible. J'étais méfiant sur tout, et je vais l'être encore après la sortie de Pieds nus dans l'aube. » Si on me reparle encore tout le temps de mon père, je vais dire « c'est fini là ». Pieds nus dans l'aube raconte une année dans la vie du jeune Félix Leclerc, 12 ans, juste avant qu'il quitte la TUC pour aller étudier au collège à Ottawa. Le film, qui se déroule en 1927, est un récit initiatique d'une beauté lente et qui porte un regard tendre et plein d'humanité sur la famille de Félix, particulièrement sur ses parents Léo et Fabiola. C'est un film qui va tranquillement et qui apaise les gens. Il dit « Viens dans mon monde, viens marcher dans la neige avec nous, entre par la porte d'en arrière et viens voir comment ça se passe », dit Francis Leclerc, réalisateur. Le résultat porte néanmoins une charge émotive explosive. Pieds nus dans l'aube touche ceux qui le voient, à commencer par le réalisateur. La finale me fait capoter. Je ne la regarde pas. Chaque fois, je ferme les yeux. Après qu'il a montré des extraits du film à son équipe, un technicien est d'ailleurs allé le voir en pleurant. « Ton père, c'est un peu comme notre père à tous », lui a-t-il dit en substance. Je me rends compte en voyant les réactions de gens qu'il manque de voix paternelle au Québec, dit Francis Leclerc. Des voix qui viennent nous dire que c'est correct, ce qu'on fait, de ne pas avoir peur, d'oser. Il n'y a personne, ni en politique, ni en musique, qui joue ce rôle. Ce n'est pas pour rien qu'il a demandé à Fred Pellerin d'écrire les dialogues du film à partir de la structure qu'il avait établie. Fred, c'est un fils de Félix. La figure paternelle est au centre de ce film dans lequel Roy Dupuis, solide et rassurant, incarne Léo, le père de Félix Leclerc. On n'a pas beaucoup de personnages masculins sains, constate le comédien. Il y a des pères absents, des alcoolos, des hommes qui trompent leurs femmes, des faibles. Léo est un beau modèle de père, créatif, masculin, positif. Roy Dupuis est un allié de Francis Leclerc depuis le film « Mémoires affectives » en 2004. « On est devenus amis en 10 minutes », dit le réalisateur. « Il était le seul à comprendre ce que je voulais faire. » Le comédien ne tourne presque plus, mais réveillé par le scénario de Francis Leclerc, il a tout de suite accepté d'incarner son grand-père à l'écran. « Il m'a donné le scénario le jour de ma fête en me disant qu'il m'offrait Léo. » Francis a appelé son fils Léo et je sais combien ce personnage est important pour lui. Un réalisateur fidèle. Francis Leclerc est un fidèle qui s'entoure à peu près de la même équipe technique depuis 20 ans. Mélanger l'amitié et le travail, c'est le plus beau, dit-il. Si tu regardes mon arbre généalogique, il est gros, mais en tapons. Il a donc aussi sa famille de comédiens qu'on retrouve dans Pieds nus dans l'aube. Roy Dupuis, bien sûr. Guy Tauvette, qui a joué à peu près dans tous ses projets. Et Catherine Sénard, qui incarne la mère de Félix, faisait partie de la série Mon meilleur ami que Francis Leclerc a réalisée. Il n'était pas question de faire d'audition, dit Francis Leclerc. Je les adore, ces gens. Et sérieusement, est-ce qu'il y a une actrice québécoise qui dégage plus de bonté dans son visage que Catherine Sénard? La comédienne se dit d'ailleurs honorée de faire partie de la famille Leclerc, fictive et réelle. Catherine Sénard a aimé incarner la mère de Félix Leclerc. Félix et sa mère s'adoraient. Il y a une chaleur, une humanité de la tendresse dans cette famille et dans ce film qui font du bien. Francis Leclerc estime qu'on a tous un Léo et une Fabiola dans sa famille. Il affirme que cette harmonie qu'on voit à l'écran vient du regard que Félix portait sur ses parents. Et c'est le regard que je portais sur les miens. C'est pour ça que j'ai voulu adapter le livre, parce que je me reconnais dans ça. Mon père s'est fâché contre moi 2 fois seulement, et après je me suis dit « plus jamais je ne le décevrai ». J'ai eu une enfance heureuse et il est juste parti super tôt. Cet esprit de famille se traduit aussi dans ses relations professionnelles. Francis Leclerc a toujours été entouré de mentors. Robert Lepage, par exemple, qui fait une apparition magique dans le film, a été un des premiers à lui faire confiance en 1998. J'avais 23 ans et c'est lui qui m'avait appelé. Il y a aussi André Melançon qu'il avait rencontré alors qu'il était tout jeune. J'étais retournée le voir et je lui avais demandé de devenir son assistant. Il avait refusé, il m'avait dit de tourner mes affaires à la place, que c'était la seule manière de trouver ma façon de faire, dit Francis Leclerc au sujet de sa relation avec André Melançon. Aujourd'hui, Francis Leclerc est entouré de jeunes de 20 ans et perpétue ce modèle de transmission. Dans le fond, si tu veux boucler la boucle, mon père a été mon premier guide. Il a été le premier à me dire de faire ce que j'aimais dans la vie. C'est pourquoi il est devenu réalisateur plutôt que médecin, qu'il a tourné des dizaines de courts-métrages et de nombreux clips avant de faire son premier film, Une jeune fille à la fenêtre, en 2001, et qu'il s'est passé 9 ans entre son 3e long-métrage, Un été sans point ni coup sûr, et son 4e, Pieds nus dans l'aube. J'ai fait de la télé pendant presque 10 ans, par choix. Je n'avais aucun projet de film en développement. J'étais tannée du cinéma, de la longueur des délais, des attentes du box-office. Alors j'ai décidé d'aller parler au monde. J'ai fait Apparence, Les Rescapés, Nos étés, Les beaux malaises. Je me suis beaucoup améliorée comme réalisateur. Avec en filigrane les notions d'héritage, de famille et de territoire, Francis Leclerc a l'impression d'avoir fait un film politique. En parlant français, en travaillant dans ma langue, en restant ici, en voulant parler de nous, c'est ça mon geste politique, car j'aime profondément notre culture. Quel avenir souhaite-t-il à son film? J'ai fait ce film pour les Québécois. Je veux que ce soit un succès de salle. Ça se peut-tu de dire ça? Je ne l'ai pas fait pour faire de l'argent, je n'en ferai pas, mais je veux qu'il soit vu. Maintenant, ses projets sont davantage orientés vers le cinéma que vers la télé. Il travaille en ce moment sur l'adaptation du roman « Le plongeur » de Stéphane Larue et étudie la faisabilité d'un scénario de Fred Pellerin. Je suis content parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais tourner. Ce qui est certain, c'est qu'il ira là où on ne l'attend pas. Mon père m'a appris à refuser la facilité. Le projet qu'il caressait d'adapter un autre livre de Félix, Le fou de Lille, est donc abandonné. Je ne ferai plus rien sur mon père. Ça a été dur. Je vais aller faire autre chose de dur, mais dans un autre secteur de mon cerveau. Je ne veux pas refaire ça. Pieds nus dans l'aube prend l'affiche le 27 octobre. agenda du week-end, quelques suggestions sorties dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Dimanche, l'Orchestre métropolitain présente le concert Imaginez l'Espagne avec le timbalier Julien Bélanger, la voix de Marjorie Maltais et sous la direction d'Alain Trudel. C'est à 14h à l'auditorium de la Maison de la Culture Mercier, 8105 8105 rue Hochelaga. Pour assister à la causerie, on arrive 30 minutes plus tôt. Tarif 42 $ pour deux personnes. www.orchestremétropolitain.com. Jusqu'au 29 octobre, le Festival interculturel du conte de Montréal réunit des artistes et des conteurs qui partageront avec nous leur imaginaire fécond. C'est au Théâtre Outremont, dans les Maisons de la Culture, à la Grande Bibliothèque, etc. Seront présents, entre autres, Joséphine Bacon, Inou de Pessamit, Chloé Sainte-Marie, Ladji Diallo, Shirin El Enzari, Alberto Garcia Sanchez, Jeanne Ferron, Franck Sylvestre, Mike Byrne. Ce soir à 20h, Territoire au pluriel, le spectacle d'ouverture est présenté au Théâtre Outremont. Dimanche, on pourra entendre « Depuis le Gan Eden » des contes et des chants juifs séfarades à la Maison de la Culture Villeray-Saint-Michel, parc extension. Mardi à 20h, à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges, on nous emmène à Bagdad avec Place du Paradis. Consultez le site car il y a plusieurs types de représentations, des rencontres, un volet relève, un volet LGBTQ et des spectacles pour la famille. Les coûts varient de 2 à 30 $ www.festival-d'union.qc.ca. Et parmi les coups de cœur de François Lambert, l'ex-dragon François Lambert ne cesse d'accumuler des projets. La semaine prochaine, il présentera son deuxième livre, « L'entrepreneuriat si difficile, point ». Et il lancera aussi une nouvelle application BoostMe pour venir en aide aux utilisateurs qui ont besoin d'assistance routière. Montréalais d'adoption, depuis une vingtaine d'années, l'entrepreneur partage avec nous ses adresses préférées qui englobent fine gastronomie, bolides de luxe et natation. Alors, parmi ses coups de cœur, le restaurant Hogun et Beaufort, des bottes sur mesure au Sarto Rialto, l'adresse secrète la mieux gardée, c'est justement là où il peut trouver des vêtements et des bottes chez Sarto Rialto, l'événement culturel le plus couru, l'été, je me sauve de Montréal. Par contre, le week-end de la Formule 1, je reste en ville et je sors mon gros char, je me promène et je fais du bruit. Alors, à venir, une très belle chanson de Rufus Wainwright et aussi l'actualité internationale, l'actualité culturelle et la tournée des journaux régionaux. Restez avec nous.
Rufus Wainwright, Going to Town.
Actualité internationale, sur les décombres d'un pont flotte un drapeau de Porto Rico, à côté un panneau « Campement des oubliés ». Un mois après le passage de l'ouragan Maria, certains hameaux de cette île des Caraïbes restaient inaccessibles par voie terrestre. Le pont qui permettait aux 27 familles de Rio Abajo de rejoindre le reste du territoire américain a été détruit, et un système de cordage a été rapidement mis en place pour acheminer des vivres au-dessus d'une eau boueuse. On a eu des jours difficiles, désespérants, se souvient Samuel de Jésus, un habitant du petit hameau de Rio Abajo dans une zone montagneuse du centre-ouest de l'île. Depuis deux semaines, vivres, eau et médicaments arrivent par les airs grâce à un hélicoptère. Les habitants réclament toutefois un pont pour pouvoir sortir leur véhicule et partir en cas d'urgence ou si un glissement de terrain se produit, explique M. de Jésus. Comme Rio Abajo, bien d'autres hameaux et villages de l'île ont été totalement isolés après le passage de l'ouragan. Un mois plus tard, 81 % de la population n'a toujours pas d'électricité. Le président des États-Unis, Donald Trump, a attribué hier à son administration la note maximale pour sa réponse à l'ouragan qui a dévasté Porto Rico, territoire américain qui reste privé d'électricité à 81 %. « Je pense que nous avons fait du très bon boulot », a déclaré M. Trump lors d'une rencontre dans le bureau ovale avec Ricardo Rossello, gouverneur de cette île des Caraïbes. Nous avons fourni beaucoup d'aide rapidement. Nous étions d'ailleurs présents avant même que la tempête frappe, a-t-il déclaré. Interrogé sur la note qu'il donnerait à son administration sur une échelle de 1 à 10, le président américain a répondu « Je nous donne un 10 ». De son côté, le gouverneur de l'île a salué la réponse de la Maison-Blanche tout en insistant sur les énormes défis auxquels l'île était toujours confrontée un mois après le passage de l'ouragan Maria. Le discours de l'une des figures de la droite suprémaciste blanche aux États-Unis a été fortement perturbé hier par des centaines de manifestants ayant pris place dans la salle où Richard Spencer devait s'exprimer sur le campus universitaire de Gainesville. La ville a été placée sous haute sécurité, craignant des débordements comme à Charlottesville en août. Pas « Va te faire foutre, Spencer », ont lancé en chœur les manifestants lorsque l'homme de 39 ans est apparu sur la scène du Phillips Center for Performing Arts de l'Université de Floride, avant d'entonner chants et slogans antiracistes. Après avoir persévéré quelques instants, il a quitté la scène avant de revenir une poignée de minutes plus tard pour tenter de prononcer son discours. Violentes invectives et insultes de part et d'autre ont ensuite fusé. À l'extérieur, un partisan néo-nazi a été frappé au visage par un manifestant en colère. Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern sera la prochaine première ministre de la Nouvelle-Zélande et elle espère mener le pays sur un chemin plus libéral après 9 années de gouvernement conservateur. La femme de 37 ans deviendra la plus jeune leader du pays en plus de 150 ans. Elle est parfois comparée au premier ministre canadien Justin Trudeau et au président français Emmanuel Macron. Madame Ardern veut freiner l'immigration, empêcher les spéculateurs étrangers d'acheter des maisons et construire des milliers de résidences plus abordables. Elle souhaite aussi rehausser le financement de l'éducation et de la santé et nettoyer les cours d'eau pollués. Propulsée le 1er août à la tête d'une opposition travailliste aux abois, Jacinda Ardern est portée par une impressionnante vague de sympathie appelée Jacinda Mania par les médias. Elle a surfé sur la promesse d'un changement de génération pour offrir au centre-gauche une remontée inespérée dans les sondages avant les élections. Et le gouvernement du Kurdistan irakien s'est déclaré hier favorable à un dialogue avec le pouvoir central à Bagdad, dont les forces viennent de chasser les combattants kurdes de zones disputées. Le cabinet du Kurdistan accueille favorablement l'initiative du premier ministre Heydar al-Abadi d'entamer des négociations pour régler les problèmes en suspens, selon la Constitution et les principes de partenariat, affirme plutôt un communiqué officiel publié à Erbil, la capitale du Kurdistan. Le Kurdistan demande l'aide et la contribution de la communauté internationale en parrainant ce dialogue, selon le gouvernement de cette région autonome. Lundi et mardi, les troupes fédérales irakiennes et des milices alliées ont évincé les forces kurdes de la riche province pétrolière de Kirkuk, ainsi que des provinces de Ninive et de Diyala. Cette opération visait à rétablir l'autorité du pouvoir central dans les zones disputées du pays. Allons-y donc avec les actualités culturelles. L'actrice Danielle Darrieux s'éteint à 100 ans. Actrice légendaire du cinéma français, Danielle Darrieux est morte mardi à l'âge de 100 ans après une carrière à la longévité exceptionnelle en France, mais aussi à Hollywood et au théâtre à Broadway. Son état s'était un peu dégradé récemment après une petite chute, a indiqué à l'agence France Presse son compagnon Jacques Genvrin. Mardi, elle s'est endormie, on peut dire. L'actrice, qui a tourné plus de 100 films, avait fêté ses 100 ans en mai. À 100 ans passés, c'était une personne un peu diminuée, mais malgré sa cécité. Elle était très attachée à la vie. « On a encore eu une visite le 4 octobre, elle était très bien », dit M. Genvrin. Archétype de la beauté féminine pour les générations d'avant la Seconde Guerre mondiale, Danielle Darrieux a été l'inoubliable partenaire de Jean Gabin dans La vérité sur Bébé d'Onge en 1953 et de Gérard Philippe dans Le rouge et le noir en 1954. Elle fut aussi l'inoubliable comtesse Louise de, point de suspension, aux côtés de Charles Boyer et Vittorio de Sica dans Madame de, adaptée en 1953 par Max Ophuls et tirée du roman de Louis de Villemorin. Née le 1er mai 1917 à Bordeaux, Danielle Darrieux tourne à 14 ans son premier film, Le bal. L'annonce d'un spectacle hommage au colloque présenté l'an prochain par le Cirque du Soleil à Trois-Rivières est loin de faire l'unanimité. Mike Sawatsky, ex-guitariste des colloques, a écrit le message suivant sur sa page Facebook. « Je n'étais pas au courant de ce spectacle. Non, ce n'est pas cool. » Un autre message, dont le contenu a été supprimé quelques heures plus tard, laissait présager que le musicien était mécontent de l'entente conclue entre les successeurs d'André Dédé-Fortin, le défunt chanteur du groupe, et le Cirque du Soleil. Le membre de la formation serait en litige avec les successeurs de Dédé Fortin concernant les droits de propriété du nom. Il pense qu'il pourrait avoir le nom à lui seul. C'est inimaginable pour toute la famille. On est conscient que Dédé n'a pas fait ça seul, mais il reste que c'est son œuvre, a relaté Réal Fortin, le frère d'André Fortin. Les 10 frères et sœurs du chanteur n'ont pas hésité à céder les droits d'édition lorsque le Cirque du Soleil les a contactés. Les responsables de l'amphithéâtre Cogeco assurent que tout a été réglé dans les règles de l'art. Les nostalgiques pourront découvrir ou redécouvrir l'œuvre des colocs sur les planches de l'amphithéâtre Cogeco du 18 juillet au 18 août 2018. La mort d'un commis voyageur, l'acteur Marc Messier surpasse les attentes. C'est une critique de Louise Bourbonnais. La pièce d'Arthur Miller, que l'on pourrait facilement qualifier de chef-d'œuvre contemporain, dépeint avec authenticité les ravages du rêve américain sur la classe moyenne. Porté par le comédien Marc Messier dans le rôle principal, celui-ci a relevé le défi avec brio. Si Marc Messier est connu pour faire rire sur les planches, il s'est brillamment démarqué dans le rôle dramatique de Willie Loman, un homme de 60 ans qui verra ses rêves se briser les uns après les autres. Les belles performances ne manquent pas dans cette pièce débordante de vérité, suscitant de grandes réflexions et de troublantes émotions. Outre l'incroyable performance de Marc Messier, mentionnons le jeu criant de vérité d'Éric Bruneau qui surprend. Bien que le père et le fils s'aiment, les frictions entre les deux hommes sont vives, voire déchirantes. Le fils a du mal à gérer les grandes ambitions que son père porte à son égard, tandis que le père est consterné devant le manque de motivation de son fils. La fin tragique de la pièce ne fait qu'ajouter à ce grand drame américain. Si la direction d'acteur du metteur en scène Serge Denoncourt est impeccable, en revanche, la scénographie est décevante. Le décor terne, composé d'une même table qui servira d'un lieu à l'autre, manque d'originalité et abaisse le niveau de la pièce. On se serait attendu à un décor plus flamboyant pour rivaliser avec la qualité de ce très grand texte. La mort d'un commis voyageur est à l'affiche du Rideau Vert jusqu'au 4 novembre. Le 16e festival Spasme, promouvoir et encourager tout cinéma insolite et de genre. Telle est la vocation du festival Spasme, dont la 16e édition se poursuit jusqu'au 28 octobre au Théâtre Plaza. Détraqué, inclassable, science-fiction, cabaret, trash, spécial sexe, total crap, horreur, autant de catégories pour réjouir les amateurs. Au contraire, Festival du film sur la maladie mentale, Florence K est la porte-parole de ce festival consacré à des films abordant les questions liées à la santé mentale, qu'il s'agisse de courts ou de longs métrages, de fiction ou encore de documentaires du 24 au 27 octobre à l'Auditorium Maxwell Cummings du Musée des beaux-arts de Montréal. Les journaux régionaux, Patricia Cloutier dans Le Soleil, un chien Mira au cœur d'une bataille judiciaire. Un père de famille poursuit la commission scolaire de la capitale parce qu'elle empêche son fils de 14 ans de fréquenter l'école en compagnie de son chien d'assistance Mira. La Fondation Mira l'appuie et estime que les écoles ne peuvent entraver ce droit fondamental. Thomas Labonté est autiste et fréquente une classe spécialisée de l'école secondaire de Neuchâtel. Depuis 2013, il possède un chien Mira qui l'aide à gérer son anxiété et à faire ses déplacements seul. C'est une forme de sécurité pour lui. Les grandes foules, ça le stresse et le chien l'aide dans ses rapports sociaux, explique son père Michel Labonté. Pour faire accepter le chien de son fils à l'école, M. Labonté s'y est pris à l'avance et a déposé une demande d'accommodement en février dernier, 6 mois avant la rentrée scolaire. Depuis, la commission scolaire n'aurait pas cessé de rajouter des conditions et de demander des documents supplémentaires à la famille. « Ça fait plusieurs mois que ça traîne. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens », lance M. Labonté. Selon la demande d'injonction déposée cette semaine au Palais de justice de Québec, la commission scolaire aurait demandé aux parents un plan de déplacement de l'animal dans l'école et une preuve d'assurance responsabilité. Elle aurait aussi invoqué la nécessité de faire passer des tests d'allergie afin de prévenir des réactions allergiques potentielles chez les autres élèves de la classe. Je trouve ça un peu ridicule qu'on en soit là, parce qu'en droit, c'est très clairement établi. Avec un chien Mira, tu es supposé être accepté partout, commente Maître Christian Lajoie, l'avocat de la famille. Selon lui, il est déraisonnable qu'un chien Mira puisse être admis dans un hôpital ou un centre commercial, mais pas dans une école. L'avocat qui représente la même famille dans une autre cause contre la commission scolaire de la capitale demande une intégration immédiate du chien à l'école et des dommages et intérêts de 75 000 $. La commission scolaire de la capitale a choisi de ne pas faire de commentaires dans ce dossier en raison du processus judiciaire. Il y a des endroits où on est accueilli les bras ouverts alors qu'ailleurs, ça bloque. C'est vraiment inégal d'une école à l'autre, commente Noël Champagne, psychologue et directeur de la recherche et du développement chez Mira. M. Champagne est celui qui a créé le programme de chiens d'assistance pour les autistes en vigueur depuis 2003 chez Mira. À l'heure actuelle, la demande est tellement grande que la Fondation Mira fournit environ 100 chiens par année à des familles dont un membre est atteint du trouble du spectre de l'autisme. M. Champagne souhaite que les écoles comprennent à quel point les chiens Mira aident ces enfants à faire moins de crises et à mieux se développer. Bloquer un chien Mira à la porte d'une école va à l'encontre de la Charte québécoise des droits et libertés et discrimine l'enfant, selon M. Champagne. Dans le droit, Louis-Denis Ebacher, Gilbert Rozon, un nom déjà gravé dans le code criminel. Le nom de Gilbert Rozon est régulièrement cité dans les salles de cour de l'Outaouais et du reste du Québec depuis 18 ans. L'arrêt Rozon de la Cour supérieure porte le nom du promoteur déchu qui, en 1999, a obtenu une absolution inconditionnelle pour une agression sexuelle sur une jeune femme. Décision célèbre, cette jurisprudence bien connue est encore régulièrement utilisée par les avocats de la Défense en 2017. C'est encore utilisé, indique Maître Emmanuel Biliveau, qui pratique le droit criminel en Outaouais. Plusieurs de ses collègues de la région ont donné le même son de cloche jeudi, alors que l'affaire Rozon et celle d'une autre vedette, Éric Salvaille, meublaient de nombreuses discussions au Palais de justice de Gatineau. Maître Daniel Cyr, un avocat criminaliste d'expérience, confirme l'utilisation régulière de cette décision dans les plaidoiries en faveur d'une absolution d'un accusé. Autant les juges que les avocats y font souvent allusion. Une absolution de la Cour permet à un accusé de considérer son dossier comme étant vierge et de déclarer qu'il n'a pas d'antécédent. Les juges l'accordent généralement lorsqu'ils sont sûrs de ne plus revoir l'individu devant la Cour et qu'ils estiment que le justiciable a compris le message. Dans le quotidien, un dernier coup de main de Trudeau pour Hébert. À quelques jours de l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean, Justin Trudeau s'est déplacé pour donner la dernière impulsion pour faire élire Richard Hébert. Toujours aussi charismatique, le premier ministre du Canada a multiplié les poignées de main et les bises dans une résidence pour personnes âgées et deux restaurants de Roberval. Une visite qui n'est pas motivée par une crainte de perdre cette élection. J'adore le terrain, j'adore faire campagne et rencontrer les gens. Il n'y a pas une partielle que j'ai manquée depuis que je suis chef pour faire du travail de terrain. Mais on prend au sérieux toutes les partielles et je suis très content d'être ici aujourd'hui, a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Justin Trudeau a commencé sa journée par une visite à la résidence pour personnes âgées L'Émeraude de Roberval. Pour ajouter au bonheur des résidents, il s'est présenté avec son fils Adrien dans les bras, flanqué de sa femme Sophie Grégoire. « Je suis ici pour vous rappeler que Richard Hébert et moi sommes là pour défendre l'industrie forestière, la gestion de l'offre, défendre les intérêts de la classe moyenne, des jeunes et des aînés et aussi protéger nos jeunes de la drogue, car il est plus facile d'acheter de la marijuana que de la bière actuellement », a-t-il lancé aux gens qui l'ont chaudement applaudi avant de pouvoir discuter brièvement avec lui. Plusieurs personnes âgées rencontrées par Le Quotidien assuraient qu'il voterait libéral. « Mon vote est déjà fait et je vote pour le Parti libéral, c'est le parti qui me rejoint le plus. » Pour Jean-Eudes Laroche, le choix est sans équivoque, rouge. Justin Trudeau a convaincu Marie-Paul Savard de voter pour lui. Il lui a remis une lettre officielle signée de sa main pour signaler qu'elle fêtera son 102e anniversaire le 29 mars prochain. Alors, c'est tout pour les voix de service quotidien de ce vendredi 20 octobre 2017. J'espère que vous avez été satisfait de cette émission. Alors, bonne fin de semaine à tous. Profitez-en bien. La fin de semaine s'annonce belle et douce. Ça va faire beaucoup de bien après une semaine assez difficile, émotivement parlant et à tout point de vue, finalement. Alors, merci beaucoup, Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis. On se retrouve lundi pour les voix de service quotidien et aussi pour l'émission Les Paractualités. À très bientôt.